Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dimanche dernier, j'ai fait une introduction sur ce grand sujet qui concerne la bienheureuse Vierge Marie. Et je vous disais que de nos jours, elle est bien maltraitée, non seulement par les ennemis déclarés extérieurs à l'Église, mais ce qui est pire et qui nous touche davantage encore, c'est que les ennemis sont à l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas nouveau. Saint Pie X, il y a déjà plus d'un siècle, disait bien que l'ennemi n'est plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, avec le modernisme qui, comme un serpent, se faufile. Et dans les modernistes, il y a une page catholique, disait-il, et une page non catholique, ce qui est très difficile pour discerner le bon grain de l'ivraie. C'est la parabole aussi de l'Évangile. Mais voilà, l'ennemi est vraiment dans la place. Et dans cet Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, Saint Matthieu, donc c'est la fin de Saint Matthieu, avant que notre Seigneur Jésus-Christ n'arrive à la Passion pour nous racheter, notre Seigneur fait un petit discours comme en parabole avec plusieurs éléments sur la fin des temps. Il y a un grand mystère avec ce sujet, la fin des temps, car c'est une grande inconnue. Mais notre Seigneur Jésus-Christ parle de l'abomination, de la désolation dans le lieu saint. Et Mgr Lefebvre, dans un sermon, je pense que c'est le sermon des sacres, en 88, il me semble, disait « Mais bien chers frères, qu'est-ce que la désolation, cette abomination, plus que des événements matériels, que le soleil qui s'écrase sur la terre, la lune qui ne donne plus sa clarté, et les étoiles qui tombent aussi, eh bien, ça c'est matériel, mais le côté spirituel que Mgr Lefebvre relevait, c'est l'erreur. L'erreur qui détruit les intelligences et qui pourrit les cœurs, qui pourrit les volontés. Et Mgr Lefebvre disait, c'est bien cela, cette désolation dans le lieu saint, dans le temple de Dieu, donc avec les autorités qui, au lieu de nous donner la lumière de la vérité, eh bien, propagent les ténèbres. Et nous allons poursuivre sur le texte de Cardinal Fernandez, entériné par Léon XIV, puisque ce texte est du cardinal, mais il promulguait avec l'autorité, c'est bien dans le texte du 4 novembre dernier, avec l'autorité du souverain pontife. À la Salette, en 1846, il y a presque deux siècles, Notre-Dame disait bien « Rome perdra la foi et va devenir le siège de l'Antéchrist ». Et 16 ans plus tôt, à la rue du Bac, Notre-Dame, c'est la grande révélation de la médaille miraculeuse qui va mettre en lumière les ténèbres actuelles. Dans cette médaille miraculeuse, Notre-Dame a les mains étendues, comme ceci. Devant Sainte Catherine Labourée. Elle a les mains qui descendent vers la terre. Et elle tient entre ses mains un globe, plus petit que celui sur lequel elle est montée. Il y a un nuage et un globe. Il y a au-dessus de ce petit globe une croix d'or. Elle l'offrait à Dieu d'un geste suppliant. N'est-ce pas là le symbole de sa médiation universelle ? À côté du médiateur et de sa royauté universelle. Bien évidemment, il n'y a qu'un médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais l'Église n'a osé dire le contraire. Il y a un médiateur et à côté de lui, une médiatrice, Notre-Dame. Et tout à coup, les doigts de ses mains se remplissent d'anneaux porteurs de diamants qui jettent des rayons de tous côtés. Et voici ce que Notre-Dame dit à Sainte Marguerite, c'est pas parlementaire, c'est Sainte Catherine Labourée. C'est l'image, dit-elle, c'est l'image des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. Donc, rayon lumineux. Et pour expliquer les pierres qui ne projettent pas de rayon, elle dit, c'est l'image des grâces que l'on oublie de me demander. » À ce moment, se forme autour de la Vierge un tableau ovale sur lequel Catherine voit apparaître en lettres d'or « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. » Nous portons tous, bien chers frères, je le pense, cette médaille miraculeuse. Ayons une grande dévotion à la médaille miraculeuse. Il y a aussi, bien sûr, après la médaille miraculeuse, après cette belle apparition de Notre-Dame, 2 ans plus tard, il y aura une conversion retentissante, Ratisbonne. Un juif athée qui était acharné contre la religion catholique et à Rome, dans l'église Saint-André, il va s'agenouiller. Il dira « Elle ne m'a pas parlé, mais je l'ai vue et j'ai tout compris. » Et j'ai tout compris. L'Immaculée, la médaille miraculeuse. Nous fêtons la médaille miraculeuse le 27 novembre, donc dans quelques jours. Sainte Catherine Labourée, le jour après. Et Saint André, quelques jours plus tard. Entre parenthèses, j'ai oublié tout à l'heure dans mes dames noms de dire que j'ai eu la joie de baptiser hier après-midi un petit André, un saint de plus. Voilà. Quelle joie de baptiser, de donner la grâce à une âme. Et toutes les grâces passent par Notre-Dame, toutes les grâces. L'enseignement de l'Église est constant. Il faut arriver en 2025 pour que un texte de Rome officiel nous dise non. Les grâces passent par Jésus-Christ et par personne d'autre, c'est protestant. Alors je voudrais, à la lumière de ces grandes apparitions, la Salette et la médaille miraculeuse, la rue du Bac, allez à la Paris, la rue du Bac, il faut voir ce beau lieu où Notre-Dame est apparue il y a presque 200 ans, 1830. Eh bien, revoyons quelques petites phrases de ce texte. Ce n'est pas un honneur, est-il dit, pour Marie, de lui attribuer une quelconque médiation dans l'accomplissement de cette œuvre exclusivement divine. Si, c'est un honneur pour Notre-Dame. C'est un honneur pour Notre-Dame. À côté du médiateur, il y a une médiatrice. Je vous disais dimanche dernier que le roi, même dans toute société, le roi n'agit jamais tout seul. Un chef d'entreprise, un père de famille n'agit jamais tout seul. Il ne fait jamais tout seul les choses. Il délègue. Et en déléguant, son autorité est encore plus grande. Parce qu'il a su déléguer. Il a su déléguer. Donc en faisant confiance à ses sujets, que ce soit un roi, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un père de famille, alors l'autorité qu'il détient, il n'en s'en dépossède pas. Mais il la développe. En faisant confiance à ceux auxquels il la communique. Et puis, bien sûr, qu'ils lui rendent compte de ce qu'ils ont fait sous sa dépendance. Père de famille, chef d'entreprise, roi, a fortiori pour Dieu. Puisque toutes les qualités d'ici-bas, elles sont au maximum en Dieu. Donc Dieu donne à Notre-Dame et à ses saints une belle autorité soumise à celle de Jésus-Christ. On vient de le voir dans l'Évangile, où il ne s'agit pas de la Sainte Vierge, mais regardez, dans ce bel Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur parle des tribulations à venir. « Et si ces jours n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc, il y avait une médiation. Elle est là, la médiation. À cause des élus, à cause de la sainteté des gens sur terre qui ont la sainteté, ces jours calamiteux seront abrégés. On ne parle pas de Dieu, là. On parle des saints. C'est en lisant ce texte que je me suis dit, mais ça correspond également. Donc, a fortiori pour Notre-Dame, qui n'est pas une sainte parmi d'autres, mais la sainte parmi les saintes, Notre-Dame est d'un autre ordre. Elle touche aux confins de la divinité. Elle n'est pas Dieu. Mais la sainteté de Notre-Dame surpasse toute la sainteté de tous les saints et des anges réunis. C'est inimaginable. Elle dépasse toute la sainteté de tous les saints réunis et des anges. Et des anges qui n'ont jamais péché, des bons anges. Alors que les saints ont péché. Ils ont fait pénitence. Tous les saints ont péché. Déjà le péché originel, plus leur péché actuel. Mais les anges, ils n'ont jamais péché, les bons anges. Notre-Dame dépasse en sainteté toute cette addition de toute la sainteté, de toutes les saintetés. Elle n'est pas médiatrice. Le texte dit, c'est une femme du peuple. Comme les femmes du peuple. C'est dans le texte. Et je vais revenir aussi sur une phrase que j'ai lue la semaine dernière, mais je n'avais pas la référence exacte. Donc j'ai un petit peu... J'ai une exactitude que je vais reprendre aujourd'hui. Donc à la page 12 de ce texte de Fernandez, « C'est elle qui, dit-il, comme toute mère, a porté son enfant dans son sein, l'a allaité, l'a élevé avec tendresse avec l'aide de Saint-Joseph. Elle n'a pas été exempte des chocs et des doutes de la maternité. » La référence est Saint-Luc, chapitre 2, versets 48 à 50. Et c'est là mon inexactitude du dimanche dernier que je vais reprendre. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la perte de l'enfant Jésus au temple. Écoutez. « À cette vue, dit l'Évangile, ils furent étonnés et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous ? Votre père et moi, nous vous cherchons tout affligés. » Et il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth, et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Y a-t-il un choc en Notre-Dame ? Y a-t-il un doute ? Elle ne comprend pas. Mais ne pas comprendre ne signifie pas mettre un doute. Je ne comprends pas une situation. Mais Notre-Dame, elle a la foi. On n'a jamais vu dans l'Évangile que Notre-Dame ait eu une diminution de la foi. Et la suite, elle conservait ces choses, elle les médite, elle les médite. On voit ça deux fois dans l'Évangile, que Notre-Dame conservait ces choses. D'abord à Bethléem, quand les bergers viennent à Bethléem, adorent l'enfant Jésus, et ensuite vont publier les louanges de Dieu. Et ils vont dire que cet enfant est né à Bethléem, venez adorer-le également. C'est le mystère de Noël. Et Marie, est-il dit, elle conserve ces choses. Elle se tait, elle ne parle pas, elle médite. C'est ça la méditation, c'est ça la foi. On médite une vérité qui nous dépasse, bien sûr, mais qu'on n'est pas en doute. Le texte romain, du mois de novembre, elle dit, elle doute, elle n'a pas douté. Elle n'a pas non plus été choquée au sens des humains, quand nous sommes choqués par quelque chose, comme terrassée. Non, elle ne comprend pas. Elle pose une question. Nous vous cherchions tout affligés. On le comprend bien. Notre-Dame et Saint-Joseph sont vraiment affligés. Ils ont perdu Jésus. Et perdre Jésus, c'est tout perdre. Évidemment. C'est pour elle que... C'est pour lui, pardon, que Notre-Dame est là. C'est pour lui que Saint-Joseph est là. Ils ont perdu Jésus. Que font-ils ? Ils font marche arrière pour le chercher. Ils n'ont de cesse de chercher Jésus tant qu'ils ne l'ont pas trouvé. Faisons-nous pareil ? Pas forcément. Oh, j'ai perdu Jésus. Perdre Jésus, ça veut dire pour nous perdre la grâce. Mais eux, bien sûr, n'ont pas perdu la grâce. Mais ils ont perdu l'auteur de toute grâce. Ils le cherchent avec anxiété. Ils le trouvent. Où ça ? Au temple. Et Jésus leur dit, « Mais pourquoi me cherchez-vous ? » C'est une question un peu étonnante. Un enfant de 12 ans qui dit à ses parents qu'il cherche pendant 3 jours, « Pourquoi me cherchez-vous ? » On dirait, c'est un peu désinvolte. Pas chez Jésus. Qui est Jésus ? Il est Dieu. Et là, il y a une inversion. En principe, dans toute famille, ce sont les parents qui éduquent les enfants, évidemment. Mais là, c'est l'enfant qui éduque ses parents. Parce que Jésus est homme, mais il est Dieu. Il est Dieu. Donc il éduque des hommes, un homme et une femme. La femme par excellence, qui ne sait pas tout. La foi de Marie a augmenté dans sa vie, bien sûr. Mais il n'y a pas de doute en Notre-Dame. Jamais. La Vierge fidèle. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une invention de ma part. Hein. C'est les docteurs de l'Église, les commentateurs disent tous cela. Donc dire que Notre-Dame a été choquée et il y a un doute de sa maternité par rapport à leur fils, c'est vraiment plus qu'une erreur, c'est une insulte. Une insulte à Notre-Dame. Et il faut réparer. Il faut réparer pour ces insultes faites à notre mère qui nous a tant aimés, durant toute sa vie. Pas seulement à la croix, mais durant toute sa vie. Toute sa vie. À Cana, que dit-elle aux serviteurs ? Faites tout ce qu'il vous dira. Et les serviteurs obéissent simplement. Mettent de l'eau dans ses jarres. Et c'est ce qu'ils font. Pour eux, c'est aberrant. Mettez de l'eau dans ses jarres, c'est pas du vin. Il y aura un miracle. Bien sûr, le miracle vient de Jésus-Christ. Mais qui a produit le miracle ? C'est Jésus-Christ qui a produit le miracle. Mais qui a suscité le miracle ? Notre-Dame. C'est par elle que le miracle va être fait. Autrement, il n'y aurait pas eu de miracle. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est pour nous aussi. Faites tout ce que Jésus-Christ nous enseigne. Donc Notre-Dame n'est pas une femme parmi les femmes, dans le peuple de Dieu, comme dit le texte. Non, c'est la femme par excellence. C'est la médiatrice, c'est la co-rédemptrice. Les dimanches prochains, durant tout l'Avent peut-être, je pense qu'il y a tellement à dire sur Notre-Dame que ces méditations, dimanche après dimanche, durant tout le temps de l'Avent, dans les quatre dimanches qui vont arriver, eh bien, vont nous aider à bien comprendre, si on peut comprendre ce grand mystère de la Vierge Marie qui est médiatrice et co-rédemptrice. Et puis ce sera une belle façon, me semble-t-il, de nous préparer à Noël, où l'enfant Jésus vient nous racheter. Et dans la crèche, avec qui ? Notre-Dame et Saint-Joseph. Ils ne sont pas absents, bien évidemment. Donc là où est Jésus, il y a Notre-Dame. Là où il y a Notre-Dame, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons Marie. Donnons-nous à Marie. Portons la médaille miraculeuse. Donnons cette médaille miraculeuse. Même à des incroyants, elle fera son chemin. Elle fera son chemin. Parce que Notre-Dame, quand elle rentre dans une maison, elle y reste. Elle fait du bien à l'âme. Elle fait du bien à l'âme. Elle convertit les âmes. Non pas à elle, mais à Jésus-Christ. Notre-Dame est le passage obligé pour les âmes d'aller du péché à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le canal, le cou, l'aqueduc, comme dit Saint Bernard, le grand dévot de Notre-Dame. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.